Je crois que nous avons assez regardé la question de la modalité de la présence sacramentelle. S'il y avait encore des questions, vous pourriez les poser, parce que maintenant je vais aller au-delà. C'est-à-dire, je laisse ce point de vue-là, nous y reviendrons pour chaque sacrement. Et ce qui est intéressant, encore une fois, j'y reviens un instant, c'est de voir comment le geste du Christ va se transmettre institutionnellement par le point de vue du sacrement. Alors, ne confondons pas le geste et le sacrement, mais voyons que l'aspect intentionnel des sacrements, c'est un aspect intentionnel qui ne se rattache pas seulement à la parole, mais qui se rattache aussi au geste. C'est cela que Jésus réalise comme législateur. Ce n'est pas une nouvelle loi, c'est ça qui est tout à fait particulier, ce n'est pas l'ancienne loi qui est reprise avec quelques petits points de vue nouveaux qu'on ajoute, c'est vraiment le point de vue particulier d'un geste, d'une réalisation dans l'institution, le testament du Christ, qui est le don de son corps et le don de son sang. Donc, ce n'est plus seulement la parole, ce n'est plus seulement la loi, c'est le don de son corps. Et pour que ce don de son corps nous soit donné d'une manière réelle, il y a cette invention de la sagesse de Dieu, c'est une invention de la sagesse de Dieu, qui était simplement préfigurée dans l'ancienne alliance, et qui a là quelque chose de tout à fait nouveau, c'est l'institution du sacrement et l'institution de l'Eucharistie. Puisque c'est l'institution de l'Eucharistie qui est le sacrement par excellence et qui nous fait comprendre justement ce quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est lié, voyez, au don du corps. Au don du corps et au don du sang du Christ. Et ce don du corps et ce don du sang est donné selon un mode sacramentel, c'est-à-dire est donné sous les apparences du pain et du vin, pour que nous comprenions bien que ce don se fait par mode d'aliment dans un repas, et dans un repas pascal, c'est-à-dire dans un repas qui est le passage de Dieu pour nous, qui est Dieu qui veut nous transformer, nous faire passer d'un état à un autre état, nous faire passer d'un climat à un autre climat, c'est donner à travers un testament dans un repas, sous ce mode particulier qu'on appelle sacramentaire. Et ce mode particulier, c'est justement que l'intentionnalité du signe et l'intentionnalité de l'instrument se trouvent unies et inséparablement unies, selon un certain ordre, puisque la signification du signe est plus fondamental que l'aspect de la cause instrumentale. La cause instrumentale est soumise au signe. Ce que saint Thomas souligne, si on regarde attentivement l'étude de saint Thomas, on voit très bien que saint Thomas a bien saisi que le point de vue de l'instrument est dans le signe. Le signe est générique. Et générique dans le sens justement qu'il enveloppe. Le point de vue instrument. Ça, c'est intéressant à essayer de réfléchir pourquoi. Pourquoi la valeur du signe passe avant la valeur de l'efficacité. La cause exemplaire passe avant l'efficacité. Alors je crois que c'est parce que c'est les sacrements de la foi. Et parce que c'est les sacrements de la foi est premièrement contemplative. Elle n'est pas premièrement efficace. Et cependant, les sacrements sont dans l'ordre de l'efficacité, parce qu'ils sont dans l'ordre du salut. Alors il y a les deux qui se conjuguent, vous voyez. C'est le salut actuel qui nous est donné. Le sacrement est porteur de grâce, puisque le sacrement par excellence nous donne le corps du Christ, et donc nous donne l'instrument de toute grâce. Il nous donne le cœur blessé de l'agneau, l'instrument de toute grâce. Il nous donne le sang du Christ, l'instrument de toute grâce. Et donc, il nous donne vraiment la grâce, l'efficacité. Et il nous la donne sous un aspect symbolique, sous le point de vue du signe, pour mieux nous faire comprendre la qualité particulière de ce don. Et pour nous faire comprendre comment ce don est tout entier ordonné à la vision béatifique. Les sacrements sont une anticipation de la vision béatifique. Ça, on verra peut-être au terme, hein, comment la sacramentalité, parce que c'est toujours la sacramentalité que nous regardons, hein, comment la sacramentalité des sept sacrements sont comme sept voies eschatologiques qui nous conduit à la vision béatifique, donc qui nous conduit à la Jérusalem céleste, à la Jérusalem nouvelle. C'est quelque chose qui... C'est le vestibule du ciel, hein, les sacrements. Quand on reçoit un sacrement, On est encore sur la terre, puisqu'on reçoit aussi sur la terre, mais on est tout entier tourné vers le ciel. C'est le propre du sacrement. On décolle. On est sur la terre, mais on est ordonné. Et c'est pour ça que le signe passe avant. Vous voyez, c'est ça qui est très curieux. J'allais dire, vous voyez, la valeur symbolique est première, génétiquement elle est première, les sacrements dans l'ancienne alliance sont des signes, et elle est ultime. Le sacrement de l'Eucharistie est viatique. Donc il nous introduit dans le mystère de l'au-delà. Il est une porte. Alors est-ce que ce serait cela qu'on devrait comprendre quand on dit que Jésus est porte? Les sacrements sont les portes du ciel. Et l'Eucharistie est la porte du ciel. C'est pour ça que chez beaucoup de saints, on voit comment le dernier moment de leur vie de la terre, c'est recevoir l'Eucharistie. Et après, ils entrent dans le ciel. Le dernier moment de la terre, où c'est le martyr, où c'est le sacrement de l'Eucharistie, qui est le martyr du Christ qui nous est donné. Et c'est le martyr du Christ à laquelle nous adhérons et qui est là, et pour nous, l'entrée dans le ciel. C'est le viatique. Et ceci, c'est, je crois, inscrit très profondément dans le mystère des sacrements. Les sacrements sont pour le ciel, sacrement de la foi et d'une foi contemplative. Déjà, la parole de Dieu est donnée pour la contemplation, mais les sacrements, étant donné qu'il y a cette valeur de silence dans ce don, sont ordonnés encore plus immédiatement à la contemplation. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la contemplation. Et nous est donné pour cela, pour que nous puissions entrer tout de suite dans la contemplation. Les sacrements sont donnés par surabondance, testament de surabondance. Ce n'était pas nécessaire au point de vue de la justice, puisque la source du salut, c'est le Christ. Vous voyez, à propos de Luther, c'est très important ça. Parce qu'on n'a pas vu le point de vue de l'Eucharistie. Et c'est très intéressant de voir comment le mystère de l'Eucharistie est vidé de sa signification profonde, de son réalisme profond, commémoration, et uniquement quelque chose qui annonce la gloire. Mais ce n'est plus le mystère de la grâce qui nous est donnée, c'est impossible. Ça n'aurait pas de signification. Alors, il faut bien saisir comment les sacrements sont donnés par surabondance. Si on regardait uniquement la nouvelle alliance, du point de vue de la justice, la croix du Christ suffit. Puisque les sacrements existent, ceci nous montre que le mystère de la croix du Christ doit être compris selon une surabondance d'amour. Dans une surabondance d'amour, alors on comprend que les sacrements peuvent exister. Surabondance d'amour pour le pèlerin, pour celui qui doit cheminer, pour celui qui est encore sur la terre et qui tend vers le ciel. Donc, c'est ce pont. C'est la médiation. Alors, il y aurait tout un aspect là qu'on n'a pas touché du tout, et que peut-être on pourrait toucher. Parce que les sacrements sont les sacrements du sacerdoce du Christ. Si c'est le sacrement du sacerdoce du Christ, dans les sacrements, on doit donc voir quelque chose qui est propre du sacerdoce du Christ. Le sacerdoce propre du Christ, c'est une médiation qui fait passer de la terre au ciel, qui fait que l'homme entre dans le mystère de la Très-Sainte Trinité. Le passage de la terre au Père. Le sacerdoce du Christ est une médiation pour les choses saintes, parce que c'est le propre du sacerdoce, c'est pas n'importe quelle médiation, c'est une médiation de salut et une médiation de sanctification. Alors, on doit retrouver dans les sacrements ce point de vue de la médiation, c'est-à-dire le passage de la terre au ciel. Le passage de la terre est donné par les apparences, et le ciel, c'est la présence réelle. C'est l'humanité glorieuse du Christ qui nous est donnée, et qui nous est donnée déjà maintenant. Et dès que l'humanité glorieuse du Christ est donnée, c'est le ciel. Qu'est-ce que c'est que le ciel? C'est l'humanité glorieuse du Christ. Et vivre en contact avec l'humanité sainte du Christ, c'est le ciel. Alors le sacrement d'Eucharistie nous donne les apparences de pain et de vin, et nous fait entrer dans le mystère du ciel, les passages viatiques. Et ceci, on le comprend, comment alors c'est sacrement de l'espérance, sacrement de foi dans la présence, sacrement d'espérance dans cette présence efficace, sacrement d'amour, parce que le sacrement de l'Eucharistie, étant le testament du Christ, nous donne la dernière volonté du Christ, aimez-vous les uns les autres comme vous voulez aimer. Alors vous retrouvez à travers les sacrements, toujours, ça ne peut pas être autrement, on retrouve à travers les sacrements, on retrouve les exigences de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et ce passage, je crois que c'est très important là, je crois que c'est un des aspects qu'on doit beaucoup développer aujourd'hui, l'aspect eschatologique des sacrements, si vous voulez. C'est l'église eschatologique, c'est l'église des derniers temps, c'est l'église qui attend le retour du Christ, c'est l'église qui a soif du retour du Christ. Et alors le sacrement de l'Eucharistie, c'est ce sacrement eschatologique par excellence, parce que il nous prend là où nous sommes pour nous mettre directement dans cette adhésion au corps glorieux du Christ, donc nous faire entrer dans le ciel. Je crois que nous avons touché les points de vue essentiels. Si j'en ai oublié, il faut me le dire. Les théologiens doivent me le dire, souligner. Parce qu'il faut voir tous les aspects du sacrement dans cette perspective de la sacramentalité. Vous voyez, dans la perspective dans laquelle nous nous sommes placés, c'est-à-dire, au fond, une théologie plus mystique, si vous voulez, qu'une théologie plus analytique. C'est plus une théologie de l'élan profond qui doit exister à travers nous. On rejoint plus l'écriture, on est plus proche de l'écriture. C'est pour ça que, avant de parler d'autre chose, c'est-à-dire du mystère du sacerdoce, puisque c'est le mystère du sacerdoce qui est tout de suite lié au mystère de l'Eucharistie, je veux vous rappeler ce qui est dit dans Saint Jean, au chapitre 6. Si vous ne mangez la chair, donc chapitre 6, verset 53 et suivant. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Jésus montre la nécessité du sacrement. Surabondance et nécessité. Et les deux choses vont ensemble. Et Jésus insiste. C'est très catégorique. Je vous ai déjà fait remarquer, on a ceux qui ont écouté ce commentaire que nous avons vu du chapitre 6, le parallélisme qu'il faut mettre avec le dialogue avec Nicodème. Je crois que c'est très important. Quand Nicodème pose la question, est-il possible quand on est vieux de retourner dans sa maternelle? Jésus montre à Nicodème qu'il fait une grosse confusion. Ici, quand les Juifs disputaient entre eux en disant « Comment, disait-il, cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Oui, il y a quelque chose de semblable. Parce que des deux côtés, c'est le retour à la chair. Eh bien, Jésus ne fait plus la même distinction qu'avec Nicodème. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est net. Donc Jésus reprend que sa chair est vraiment une nourriture et que son sang est vraiment une boisson. Tout le réalisme du sacrement de l'Eucharistie doit être pris dans cette force que c'est vraiment sous ce mode de nourriture. C'est une nourriture, c'est la nourriture, c'est le vrai pain. Donc c'est la nourriture par excellence. La chair du Christ est la nourriture par excellence. Et le sang du Christ est la nourriture, et le breuvage par excellence. Celui qui, d'une certaine manière, voyez, va remplacer toutes les autres nourritures. Parce qu'il est sacrement, il est la nourriture par excellence. Vous n'aurez pas la vie en vous. Et pour faire comprendre justement ce caractère de nécessité, c'est dit de cette manière-là. C'est le sacrement qui est le plus nécessaire parmi tous les sacrements. Parce qu'il touche directement à ce qu'est l'ultime. Celui qui consomme ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alors, ici nous sommes en face des effets du sacrement de l'Eucharistie. Après avoir essayé de comprendre sa constitution, nous regardons ses effets maintenant. Et ses effets, je crois que c'est le lieu par excellence. C'est là où nous comprenons mieux. Ce n'est pas du tout au moment d'institution. Moi, l'institution, on n'a pas l'impression que l'action de grâce est à plonger dans un profond silence. On n'a pas du tout cette impression-là. On a l'impression que la discussion continue. Tandis qu'ici, Jésus, dans une théologie prophétique sur le mystère de l'Eucharistie, montre pourquoi il a institué l'Eucharistie. Pourquoi il l'a institué. Il l'a institué parce que c'est nécessaire. Nous avons besoin de la nourriture. C'est nécessaire pour pouvoir être pèlerin. Nous avons besoin de cette nourriture qui est la nourriture, le cœur de Jésus, le sang de Jésus. Et Jésus précise, celui qui consomme ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc c'est une nourriture de vie éternelle. C'est une nourriture de vie éternelle. Ce n'est pas une nourriture pour le temps. C'est une nourriture qui nous met dans la vie éternelle, qui nous fait déjà entrer dans la vie éternelle. Moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et c'est en même temps une promesse de la résurrection des corps. Si la chair du Christ nous est donnée en nourriture, c'est parce que, justement, notre chair humaine va connaître la corruption, ne doit pas connaître éternellement la corruption. Elle doit un jour ressusciter. Alors, c'est le lien entre le sacrement de l'Eucharistie et la résurrection. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est à la lumière de l'Eucharistie qu'on doit regarder le mystère de la résurrection des corps. C'est vraiment à la lumière de l'Eucharistie. Donc à la lumière de la transsubstantiation. Quand on se demande qu'est-ce que c'est que les corps glorieux, vous voyez, le nouveau ciel et la nouvelle terre, hein, les corps glorieux, c'est à la lumière du mystère de la transsubstantiation. La seule chose que nous pouvons dire, c'est Dieu qui agira de manière telle qu'il transformera tout dans la perspective de l'amour. La toute-puissance de Dieu est au service de son amour dans la résurrection des corps. Et notre corps glorieux sera un corps uniquement au service de l'amour. Uniquement ordonné à l'amour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui consomme ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc cette vie éternelle, c'est de demeurer avec lui et lui en nous. C'est de demeurer. l'inésion mutuelle, qui est une conséquence de l'amour, qui est un effet de l'amour. L'effet propre de l'Eucharistie, c'est l'effet propre de l'amour. C'est le sacrement de l'amour dont l'effet est un effet d'amour. Et l'effet de l'amour, c'est de demeurer. L'union affective qui appelle l'union effective. Demeurer. Les deux sont liés. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, ainsi celui qui me consomme vivra lui aussi par moi. Alors vous savez la manière dont le Père Feuillet souligne ici la traduction en disant « De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par et pour. » Autrement dit, on doit mettre les deux. C'est le « dia » qui peut aussi bien signifier les deux. Et c'est, je crois, très important de souligner que dans cette perspective divine, l'origine et la finalité ne font qu'un. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par et pour le Père, il faut mettre les deux en parallèle l'un au-dessus de l'autre pour voir que la traduction implique les deux. Ainsi celui qui me consomme vivra lui aussi par et pour moi. Alors, Jésus nous fait comprendre que par l'Eucharistie, notre vie chrétienne doit être tout entière ordonnée vers le Christ. Elle vient totalement du Christ et elle remonte entièrement au Christ, comme la vie même de Jésus, du Fils bien-aimé, vient du Père et retourne vers le Père. Nous devenons, vous voyez, agapétos, bien-aimé pour le cœur de Jésus. C'est le sacrement de l'amour, nous sommes bien-aimés pour le cœur du Christ. Comme le Fils est le bien-aimé, l'agapétos, par rapport au Père, nous sommes des bien-aimés. Et l'Eucharistie vient intensifier cette exigence d'être des bien-aimés. Et je crois ce qui est plus fort, ça. Par et pour. Notre vie, le climat de notre vie, ne doit pas être autre chose que cela, lorsqu'il s'agit de ce sacrement de l'Eucharistie. Et il est donné pour ça. Oui, on comprend. C'est le sacrement pour les bien-aimés. C'est le sacrement du bien-aimé pour les bien-aimés. Pour réaliser en plénitude l'alliance. L'alliance est réalisée en plénitude à travers l'Eucharistie. Encore sur la terre, d'une manière voilée, mais en plénitude. C'est le même amour sur la terre et dans le ciel. Et donc, cette alliance des bien-aimés se réalise parfaitement, nous l'avons dit, déjà de la terre. Mais sous un voile caché. Parce que la comparaison que prend Jésus ne serait plus vraie autrement. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, ainsi celui qui me consomme vivra lui aussi par moi. Jésus vivait sur la terre tout ce qu'il vivra dans le ciel, tout ce qu'il vit dans le ciel actuellement. De même, nous, par l'Eucharistie, anticipation de la vision béatifique. Et l'Eucharistie est vraiment le sacrement de l'anticipation de la vision béatifique. Par l'amour et dans l'amour. Et dans la foi, mais en anticipation. C'est ça qui est extraordinaire. L'amour peut anticiper, vous voyez, le point de vue de l'intelligence. La vision béatifique donnera la lumière, mais dans l'amour, tout est anticipé. C'est la hâte de l'amour, ça, qui veut prendre possession complète de notre cœur pour que notre cœur soit déjà pris par le cœur du Christ d'une manière telle que notre intelligence sera prise dans la vision béatifique. Alors vous pouvez pousser un tout petit peu l'analogie, et je crois que ça nous éclaire beaucoup pour comprendre ce qu'est l'effet propre du sacrement de l'Eucharistie. Dans la vision béatifique, saint Thomas qui a étudié la vision béatifique d'une manière très très forte, dans la vision béatifique, c'est le Verbe de Dieu qui vient déterminer notre intelligence. c'est le Verbe de Dieu qui du dedans détermine notre intelligence. Nous n'avons plus de concept propre dans la vision béatifique. C'est unique, hein, c'est la seule connaissance sans concept. C'est ça le propre de la vision béatifique. C'est pour ça que c'est comme une extase du côté de l'intelligence. C'est une extase de lumière. C'est la lumière divine qui s'empare de notre intelligence d'une manière telle que notre intelligence alors va sortir de sa limite pour entrer pleinement dans le regard sur Dieu. Et je crois qu'on peut dire que par l'Eucharistie, il se réalise quelque chose d'analogue. Du côté de l'amour. Du côté de l'amour, c'est la présence de l'ami dans le cœur de l'aimé qui donne à l'ami, qui donne à l'amour de l'ami toute sa dimension. Je dis bien la présence, hein, la présence de l'ami, c'est pas seulement une idée, c'est pas seulement je pense à lui. Non, c'est la présence. L'amour cherche l'union efficace, l'union effective. De l'union affective, on doit passer à l'union efficiente, l'union réelle. Et bien dans l'Eucharistie, Jésus se donne pour être de fait présent au plus intime de notre cœur. D'une présence de celui qui est donné. C'est donc lui, lui-même, comme celui qui est donné, comme l'ami, comme l'époux, qui se donne dans cette présence et qui spécifie cette présence. Cette présence est spécifiée par le don même du Christ, le Christ lui-même. C'est lui qui réalise cette unité. Il demeure en nous et nous en lui. Même encore une fois, si ça reste dans l'obscurité de la foi, c'est réel. Nous ne réalisons rien du tout, mais nous devons, dans notre foi, comprendre que c'est réel. Et que c'est ce qui se passera éternellement. Ici, sous un mode voilé, mais avec tout le réalisme de la vision béatifique. Et nous sommes présents à lui. Je crois que c'est comme cela que nous devons comprendre cette affirmation de Jésus. Tel est le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Celui qui consomme ce pain vivra à jamais. C'est la promesse de l'éternité actuelle. Celui qui meurt à jamais, c'est celui qui est éternel. Parce que mourir, c'est être dans le temps. Être dans le temps. Tandis que celui qui n'est plus dans le temps, il est éternel. Le sacerdoce du Christ est éternel. Parce que justement, il met l'humanité sainte. Il est, je veux dire, le sacerdoce du Christ est éternel parce que de fait, il touche le terme. Il n'a pas d'autre chose après qui pourrait le relativiser. Il nous met dans le ciel. Et l'Eucharistie, fruit de ce sacerdoce éternel, nous met dans le ciel. Et donc, on ne peut plus mourir. Au point de vue de la vie divine. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agissait de la manne, la manne ne donnait pas l'éternité. Et n'empêchait pas de mourir. Voilà ce que dit Jésus enseignant en synagogue à Capharnaüm. Tous ceux qui ont été en Israël connaissent synagogue de Capharnaüm, n'est-ce pas ? Mais savent que ce n'est pas celle que Jésus a connue. Maintenant, c'est absolument prouvé, autant qu'on peut le prouver par les preuves archéologiques. Ce ce bon franciscain capucin, je crois qu'il est là, capucin italien, qui est un homme tout à fait aimable, et qui a fait cette découverte, et qui tient beaucoup, cette découverte, d'avoir découvert le sol de la synagogue où Jésus a pénétré. Mais c'est beau de voir que c'est dans la synagogue. C'est dans la synagogue que Jésus a donné ce discours prophétique sur l'Eucharistie. La synagogue, le lieu de l'enseignement, le lieu de la prière, le lieu de la parole divine. C'est très très grand ça, pour montrer à la fois la continuité et le dépassement. Tout ce qui va plus loin, oui. Oui, moi je veux bien. Oui, tout à fait. J'en ai dit un mot, mais on peut revenir de façon plus précise, parce que c'est sûrement un des aspects.
Oui.
Comme effet. Vous voyez, c'est l'effet qu'on voit. Enfin, ici, c'est les effets. Dans ce discours, Jésus n'en parle pas. Mais c'est exactement ce qu'il faut comprendre, c'est que le sacrement de l'Eucharistie, qui est d'une façon sacramentelle le sacrifice du Christ pour nous, pas simplement, vous voyez, la commémoration dans le sens de nous rappeler, mais qui nous donne sacramentellement le sacrifice de la croix. C'est si difficile, vous voyez, alors on dit c'est un nouveau sacrifice. Non, c'est pas un nouveau sacrifice. C'est le sacrifice de la croix pour nous, mais qui est vraiment renouvelé. C'est pour ça qu'on patauge, là, avec nos pauvres mots, hein. C'est un patauge. C'est le sacrifice du Christ de la croix qui nous est donné selon ce mode sacramentel. Donc, il y a bien, sacramentellement, comprenez bien et soulignez, sacramentellement, un nouveau sacrifice. Mais sacramentellement. L'unique sacrifice du Christ est porteur de tous ces sacrifices. Sacramentellement. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, c'est pour ça que je prenais la comparaison, l'analogie de l'intentionnalité. Il y a quelque chose de nouveau, chaque fois qu'il y a un sacrifice de la messe, il y a un sacrifice nouveau. Sacramentellement. C'est-à-dire pour nous. C'est-à-dire pour les hommes d'aujourd'hui. C'est le sacrifice de la croix qui est renouvelé sacramentellement. Vous ne pouvez pas dire renouvelé tout court, vous voyez ? Ce serait faux. Le sacrifice de la croix n'est pas renouvelé, ne peut pas être renouvelé. Il est éternel. Donc, il est toujours en acte dans le cœur du Christ. Dans la gloire, il est toujours en acte. Jésus offrant sa vie. Et c'est ça, le formel ultime du sacrifice du Christ. C'est pas l'aspect sanglant, c'est l'aspect intérieur. Et c'est l'offrande intérieure de sa vie. Il s'est offert, il a déposé sa vie. Et c'est pour ça que le Père l'aime. Ce texte est si fort, c'est pour ça que le Père l'aime. C'est donc ce qu'il y a d'ultime dans sa vie. Ce qu'il y a d'ultime dans sa vie, c'est de pouvoir offrir sa vie, de pouvoir vraiment donner son âme pour la gloire du Père et notre salut. Ceci est éternel puisque c'est un acte d'amour. Et c'est présent actuellement dans l'éternité. Si c'est présent actuellement dans l'éternité, vous voyez, ça ne peut pas être répété. Et cependant, c'est un sacrifice qui nous est donné sacramentellement, et donc qui est réellement actuel dans le sacrement, et qui implique d'être renouvelé dans le sacrement. Et c'est pour ça que là, notre langage, est, si je le prends matériellement, il est contradictoire. À la fois, je dis qu'il n'y a qu'un seul sacrifice, et je dois le dire, et que ce sacrifice est éternel, et qu'il ne peut pas être répété, et en même temps, je dois dire que chaque messe nous donne un sacrifice nouveau, qui est le sacrifice unique. Substantiellement, c'est le même. Mais il est répété sous ce mode sacramentel. C'est pour ça qu'il faut insister énormément sous ce mode sacramentel, pour que nous comprenions bien comment il est tout entier relatif. Alors, il est tout entier relatif au sacrifice actuel du Christ, éternel, et qui s'est réalisé à la croix, au point de départ. Et il est tout entier pour nous. C'est pour ça que le mystère de l'Eucharistie, comprenons bien, c'est bien la communion au corps du Christ, au sang du Christ, mais c'est en même temps être un, comme Marie, avec Jésus dans son holocauste, avec Jésus dans son sacrifice. C'est être un avec lui. C'est-à-dire que le sacrifice du Christ nous est donné, puisqu'il nous est donné comme pain et comme vin. Il n'est pas donné seulement comme pain, il nous est donné comme pain et comme vin. Le symbolisme double nous est toujours donné, même si on ne communique que sous les espèces du pain, ça n'a pas d'importance. La réalité du mystère, c'est de nous donner le sacrifice du Christ. Et donc, de faire que le sacrifice du Christ nous transforme nous-mêmes en un état d'holocauste et de sacrifice pour le Père. Donc l'effet profond du sacrifice de la messe, du sacrifice de l'Eucharistie, c'est de nous mettre, nous aussi, dans ce moment ultime de la vie du Christ, qui est d'offrir sa vie pour le Père, pour glorifier le Père et sauver le monde. Par l'Eucharistie, nous glorifions le Père en offrant notre vie, et nous sauvons ceux qui sont proches de nous. Et ceci, c'est demeurer en moi et moi en vous. C'est un clou dedans. Puisque l'acte ultime de la vie du Christ, on ne demeure avec quelqu'un que quand on vit son acte ultime. Autrement, on ne demeure pas. Demeurer, c'est justement l'union la plus grande. Alors, demeurer en moi et moi en vous, c'est l'acte ultime de Jésus, cet acte ultime de Jésus qui nous est donné, pour que ce soit notre acte ultime. Et c'est en ce sens-là que l'Eucharistie est viatique. L'Eucharistie devrait nous faire passer de la terre au ciel. Il devrait. L'Eucharistie, si on comprenait, et on vivait, parce que c'est pas comprendre, si on vivait du sacrement de l'Eucharistie, on passerait de la terre au ciel. Serait le passage, puisque le passage se fait par la croix. C'est notre Pâques. C'est le passage. Demeurer. Et comme le Christ vit par et pour le Père, nous vivons par et pour lui. Il vit par et pour le Père quand il meurt dans l'obéissance. C'est l'obéissance qui achève tout. Tant que l'obéissance n'est pas là, il n'y a pas d'achèvement. Et le sacrifice se réalise dans l'obéissance. Et Jésus veut qu'entre lui et nous, il y ait le même achèvement. Et l'Eucharistie réalise cet achèvement. C'est pour ça que l'Eucharistie nous donne l'obéissance de Jésus à l'égard du Père. Et nous donne cette obéissance pour que nous soyons totalement obéissants par lui, que nous recevions tout de lui et que nous vivions entièrement pour lui. Et les deux aspects sous lesquels son temps du reste, sous lequel nous pouvons comprendre ça, demeurer, vivre pour le Père, à l'exemple du Christ, comme le Christ lui-même. Et le mystère de la résurrection vient tout simplement comme conséquence. C'est normal, c'est la conséquence. Il fallait qu'il meure pour ressusciter, vous voyez. Il fallait qu'il meure par la croix pour le mystère de la résurrection et de la glorification. De même, par l'Eucharistie, nous sommes nous-mêmes ordonnés vers la gloire. Que nous vivons le sacrifice du Christ. Et c'est en vivant le sacrifice du Christ que nous préparons le Dieu à la résurrection. Donc la fois prochaine, je ne reviendrai plus, sauf si c'est des questions, je ne reviendrai plus sur ce point et nous verrons tout de suite le passage de l'Eucharistie au sacerdoce.